Il y a un point sur lequel ma mère, Simone van der Does Roustin, et ma femme, Yvonne, mon épouse, Yvonne van der Does Crooker, un point sur lequel elles étaient d'accord, pleinement d'accord. Il y avait d'autres points, mais là, il y avait un consensus large, c'est que le petit Éric était un fameux rouspéteur. Alors je dis était pour la concordance des temps, mais je pourrais utiliser le présent. Mais j'avais des circonstances, on va dire, atténuantes. Je ne suis pas le seul dans l'histoire. Il y a le Schtroumpf grognon, il y a le nain grincheux, il y a surtout un peuple de râleurs dont je suis malgré tout quelque peu issu, on va dire à 85%, né à Fontainebleau, etc., de mère ardéchoise, et qui a la réputation d'être un peuple de râleurs. J'ai trouvé sur Internet cette image-là. Il y a un t-shirt French râleur, qui est en fait un pléonasme, puisque c'est intimement lié, le fait de râler, à la culture française, et je dirais même à la culture gauloise, puisque nos ancêtres Astérix et Obélix étaient, et on le sait aussi, des râleurs invétérés, Astérix également, malgré tout. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que, en tant que Français, on en est presque fiers, n'est-ce pas? En tout cas, les Gaulois et Astérix et Obélix, ils sont un peu fiers d'être râleurs, même si ça amène parfois un certain chaos dans le village. Je suis râleur, grognon, ronchon, grincheux, rouspéteur, et j'en passe et des meilleurs. D'ailleurs, dans la cuisine, il y a 7 ans et demi que je suis là, je l'ai découvert il y a 7 ans et demi, il y a une tasse. Que j'utilise depuis, c'est Mr. Grumpy, Monsieur Grincheux. Et donc, il y a 7 ans et demi, en 2018, quand on est arrivé, elle était là, et je l'ai prise pour moi, et à mon avis, elle m'était destinée. Comment le saviez-vous? À mon avis, Yvonne vous avait prévenu, mais je l'utilise maintenant pour me souvenir de cela, Mr. Grumpy. Mais, deuxième circonstance atténuante, il y a aussi des précédents bibliques. Avec le peuple d'Israël, un peuple de râleurs. Nous faisons depuis quelques mois une série de prédications sur l'Exode, le deuxième livre de la Bible. Et on va voir que ce peuple d'Israël est aussi un peuple de râleurs. En mai dernier, Moïse est né. Moïse est né dans un petit bateau en osier, et en juillet, on s'est demandé ce qu'il fabriquait parce que il a tué un Égyptien. En juillet aussi, on voit qu'il y a une rencontre avec le Yahvé qui change tout dans sa vie. Et puis en septembre, on voit s'abattre sur le pays d'Égypte et même un petit peu sur le peuple d'Israël les 10 plaies d'Égypte, et on voit l'endurcissement de Pharaon. En octobre, c'est la fête de la Pâque, c'est-à-dire de la délivrance. Ils vont sortir. Et puis enfin, en novembre, c'est le grand moment de cinéma avec la mer qui se sépare en deux et le passage, et il y a le film Les 10 commandements qui est passé, je pense, un soir de cette semaine sur je ne sais pas quelle chaîne. Un grand moment de cinéma, ouais, mais pas que, un grand moment d'histoire, un grand moment de délivrance, hein, et un grand moment de libération, de salut. Et donc après tout cela, après avoir vécu ces grands moments de l'action de Dieu dans leur vie et dans la vie de leur peuple, les voilà dans le désert, et contre toute attente, le peuple se met à murmurer, à râler, à rouspéter. Une autre traduction disait à maugréer. C'est joli comme nom. Enfin, bon. Lisons ça. On est à Mara. Sur ordre de Moïse, Israël quitta la mer des roseaux et prit la direction du désert de Chour. Ils marchèrent pendant 3 jours. 3 jours après, hein, ils ont passer la mer. Et ils arrivent dans le désert, 3 jours après, sans trouver de point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, où il y avait de l'eau, mais ils ne purent pas en boire parce qu'elle était amère. D'où le nom de Mara, qui veut dire, comme je sais, amertume. Alors le peuple se plaignit, ou murmura, ou maugréa, de Moïse en disant, qu'allons-nous boire? Et puis quelques temps après, dans Exode 16, ils sont dans le désert de Sin. Rien à voir, mais en anglais, Sin, c'est le péché. Toute la communauté des Israélites quitta Élim, et le 15e jour du second mois qui suivit leur sortie d'Égypte, c'est pas loin quand même, les Israélites arrivèrent au désert de Sin, qui s'étend entre Élim et le Sinaï. Là, dans le désert, toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et d'Aaron, murmura, maugréa, rouspéta, et ils leur dirent, « Ah, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte où nous étions installés devant des marmites pleines de viande et où nous mangions du pain à satiété, tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. » Pas content. Et puis, dernier moment de murmure, à Réphidim, on a appelé ce lieu Massa et Meriba. Toute l'assemblée des Israélites s'éloigna étape par étape du désert de Sin, selon les directives de l'Éternel. Ils campèrent à Réphidim, où ils ne trouvèrent pas d'eau à boire. Alors le peuple prit Moïse à partie, en lui disant « Donne-nous de l'eau à boire !» Moïse leur répondit « Pourquoi me prenez-vous à partie? Pourquoi voulez-vous forcer la main à l'Éternel ?» Pressé par la soif, le peuple se plaignit de Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici, pour nous et nos enfants et nos troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant « Que puis-je faire pour ce peuple? Ils sont sur le point de me lapider. » Murmure, trois fois, Mara, Réphidim, désert de Sin et Réphidim. Et puis, le livre des Nombres qui reprend un peu cette histoire, cet épisode de la sortie d'Égypte, en rajoute un peu. Et là, c'est magnifique. Alors, les Israélites, à leur tour, recommencèrent à se plaindre, à se murmurer, en disant « Ah, si seulement nous pouvions manger de la viande! Nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien! C'était gratuit en Égypte! Et les concombres! Et les melons! Et les poireaux! Et les oignons! Et l'ail! Ah, l'ail, ça manque! » À présent, nous dépérissons, nous sommes privés de tout, rien que de la manne, toujours de la manne. J'adore ce passage, surtout les concombres. Comment peut-on regretter les concombres? Ça n'a pas de goût, les concombres. Mais bon, alors, c'est étonnant, ces murmures, parce que on se rappelle qu'Israël était esclave en Égypte, qu'ils ont crié à Dieu, que la main de Pharaon s'est appesantie sur eux. Il ne faisait pas ce qu'il voulait. Il a multiplié les corvées. Ils ont vu les plaies s'abattre sur l'Égypte. Ils ont fêté la Pâque et ils sont partis. Dieu a ouvert la mer devant eux. L'armée de Pharaon a été engloutie. Ils ont été libérés par Dieu de manière assez spectaculaire. Au chapitre 15, on le voit, ils chantent des cantiques avec Myriam, avec la bande de Myriam Sisters. C'est magnifique. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Il y a un grand moment de louange pour le peuple, digne d'un dimanche matin à l'église de Cannes. Et quelques jours après, quelques jours seulement, il râle parce qu'il n'y a pas d'eau. Et on est en droit de se poser la question, comment est-ce possible? J'ai intitulé ce passage, pour ceux qui enregistrent et qui le mettent sur le truc, « Murmure et grognement ». Un petit peu la série Orgueil et préjugés, hein, vous savez, c'est encore du cinéma, murmure et grognement, et j'aurais pu écrire tout simplement comme titre « Ou comment gérer un peuple grognon ?» Comment me gérer moi, râleur invétéré? Comment Dieu va s'y prendre? Alors, autre question, comment est-ce possible? Et donc là, d'en venir à ces murmures, la tentative d'explication, c'est d'abord la mémoire sélective. Comment ça se fait qu'ils se souviennent de l'Égypte comme cela, alors que c'était pas ça? Et notre mémoire sélective est une réalité dans notre vie humaine. Notre mémoire nous joue des tours et nous permet d'oublier parfois les choses qui nous déplaisent pour idéaliser le passé, pour mieux murmurer dans le présent. Il y a un dissident soviétique, Melik Agourski, qui disait cela, et c'est très éclairant, vous allez voir, on va le lire ensemble. La vie dans les pays totalitaires possède des côtés attrayants, comme toute vie qui se déroule sous la contrainte. La Russie du servage et le ghetto juif du Moyen Âge se distinguaient par le rythme régulier de leur existence. Chacun savait exactement quelle était sa place et quelles étaient ses possibilités. Nul ne se révoltait et d'un point de vue psychologique, l'homme était relativement satisfait. L'Égypte avait ses bons côtés, disent les Israélites. On n'était pas libre, mais au moins on mangeait des concombres. Et pour expliquer aussi ces murmures qui sont tout à fait inexplicable malgré tout ou étonnant, on pourrait penser simplement à notre nature humaine, notre centrage sur nous, notre insatisfaction notoire, notre besoin d'avoir tout et tout de suite. Il y a Martin Luther qui disait de façon très lucide, pas cynique mais lucide, nous nous trouvons d'ordinaire au bout de notre foi en même temps que de nos provisions. Quand nos provisions s'achèvent, la nature humaine a tendance, enfin la foi des hommes et des femmes a tendance à s'arrêter en même moment. Les provisions, ou on pourrait dire des bénédictions, on dit aujourd'hui, hein. Notre foi s'arrête souvent en même temps que nos bénédictions. Et il paraît que quelques jours suffisent pour tout faire basculer, 3 jours. Il paraît que même statistiquement, 3 jours suffisent pour la révolte ou la rébellion ou les murmures. Le vendredi, tout va bien. Le lundi, on ne voit que ce qui nous manque et nous crions, Marat, que ma vie est amère, que cette eau est dégueulasse. Alors, on peut se demander aussi si il ne s'agit que d'une mauvaise habitude, vous savez, une mauvaise habitude dont on peut rire, et je l'ai fait abondamment au début, dans l'introduction, je m'en suis pas privé, mais est-ce que c'est vraiment si anodin que cela, le murmure, le grognement, surtout quand il devient constant? Si on va en profondeur de notre être intérieur, quelqu'un disait qu'il y avait des risques d'un état de murmure permanent ou d'un état permanent de murmure, qui le sont tout autant, permanent. Et le premier risque, c'est celui de la contagion. Et vous l'avez remarqué, dans notre ville, la critique, les murmures se propage à vitesse grand V. Entendre quelqu'un se plaindre, murmurer, rouspéter, nous donne envie ou nous donne presque le droit de nous plaindre aussi, et nous nous retrouvons dans le bain des jérémiades, plus ou moins spontanées, plus ou moins organisées. J'étais mardi dans la salle d'attente de mon médecin, qui n'était pas en grève, enfin si, j'ai appris après qu'il faisait grève et donc qu'il ne faisait pas payer les consultations. C'est magnifique. Je vous donne son adresse. Et j'arrive là, et là, il y avait 3 personnes dans la salle d'attente, un couple et un autre monsieur. Et moi, j'entends la phrase, oui, mais en France, tout va à la volo. OK. Et puis l'autre renchérit. Et ça monte. Moi, j'avais envie de leur dire, bon, calmons-nous quand même, là. Et puis, il y a l'associée de mon médecin qui arrive, une femme, médecin, et elle arrive, faites une quarantaine, très avenante, elle dit, bon, c'est à qui le tour? Ah, monsieur. Et le monsieur, là, qui était, oh, la France va à volo, se lève et la suit, puis le calme s'est fait, Je trouvais ça chouette, la France va à volo, mais il y a une femme médecin qui ne fait pas grève, qui vous accueille dans son cabinet et qui vous soigne et qui prend du temps pour vous, pour pas trop cher. Mais si on n'y prend pas garde, on peut être entraîné à surenchérir la plainte, le mécontentement, la rousse pétante. Et à un moment, je pense qu'il faut pouvoir dire stop. Non, je rentre pas dedans. Je ne m'assieds pas en compagnie des moqueurs, dit le psaume 1, ou des rouspéteurs. Vous pouvez vous asseoir à côté de moi quand même. Mais voilà. Et puis, le deuxième risque toxique, c'est celui de l'endurcissement. Cet épisode à Massa et Meriba va rester dans la mémoire collective. Et le psaume 95 va dire: N'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils m'aient vu en action. N'endurcissez pas vos cœurs. Et c'est un endurcissement par rapport à Dieu. Ce n'est point de nous que vous vous êtes plaints, dit Moïse, mais de l'Éternel. Et il y a, il me semble, dans l'état permanent de plainte, comme un jugement de Dieu, il est mis au banc des accusés et nous le déclarons coupable. Il ne m'a pas donné la vie dont je rêvais, ou mieux, la vie que je méritais. Toi. Et on s'enfonce dans l'amertume et on ne voit plus rien d'autre que nos insatisfactions. On s'endurcit et on s'enfonce dans le noir de nos propres ténèbres, de nos noirs désirs. Il y a un mot qui revient, vous l'avez certainement perçu à la lecture des murmures, c'est le mot d'épreuve. Et c'est une épreuve pour tout le monde. Et c'est assez étrange de voir le deuxième sujet de l'épreuve. Mais le premier sujet est plus évident, c'est le peuple d'Israël qui est mis à l'épreuve. Exode 16, 4, je le mettrai de la sorte à l'épreuve. Ou je le mettrai à l'épreuve de la sorte. De quelle sorte? Alors là, il y a une question, Exode 16, c'est l'écaille et la manne. Et cette manne, une espèce de... Oh, flûte, j'aurais dû préparer mon mot à l'avance, mais de substance qui vient sur les plantes et qui ressemble à du pain. Et donc, alors, mais le règle avec cette manne, c'est la règle avec cette manne, c'est de ne le récolter qu'au jour le jour. Sinon, elle pourrit. Si on en fait des réserves ou des provisions, elle pourrit. Jour le jour, au quotidien. Certains auront du mal avec ça, mais l'épreuve, elle est là. Faire confiance. C'est une épreuve de la confiance et on pourrait dire de la foi. Ou même de l'obéissance. Quelqu'un priera plus tard, et nous l'avons chanté, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pas celui de hier, pas celui de demain, mais celui d'aujourd'hui. Et puis, il y a un deuxième sujet pour l'épreuve, et il est plus étonnant, c'est Dieu lui-même qui est mis à l'épreuve. Plusieurs fois, dans les récits des murmures, il y a cette phrase qui revient, comment pouvez-vous mettre Dieu à l'épreuve? Qui est aussi traduit par comment vous pouvez forcer la main de Dieu, ou provoquer Dieu, ou tenter Dieu. Il appela ce lieu Massa et Meriba, qui veut dire épreuve et querelle. Parce que les Israélites l'avaient prise à partie, on parle de Moïse, et parce qu'ils avaient voulu forcer la main de l'Éternel en disant oui ou non au milieu de nous. Tenter, provoquer, mettre Dieu à l'épreuve, c'est le même mot que pour Israël, à l'épreuve. Douter de sa présence, tester sa présence, faire de Dieu un petit peu son obligé, porter atteinte à la liberté de Dieu, douter de sa bonté, mettre Dieu en boîte à outils, ou boîte à chocolat dans laquelle je me sers. Jésus, lors de sa tentation au désert, sa triple tentation au désert, dans Matthieu 4, va se souvenir de Deutéronome 6 qui reprend le texte. Vous ne forcerez pas. Est-ce que je l'ai là? Ouais. Vous ne tenterez pas l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa et Meriba. Vous ne tenterez pas. Jésus va utiliser cette phrase de Deutéronome 6 pour dire au diable qui dit, va sur le haut du temple et jette-toi dans le haut du temple et avec mes anges, et dis aux anges de te recueillir. Il dit, non, non, tu ne tenteras pas le Seigneur de ton Dieu. Tu ne feras pas de Dieu une boîte à outils ou une boîte à outils pour te glorifier toi-même. Tu ne mettras pas Dieu en boîte. Vous ne forcerez pas la main de l'Éternel. Alors, ce qui est surprenant, c'est que malgré cette mise à l'épreuve de Dieu, malgré ces murmures, ces plaintes, ces rouspétances, ce manque de foi, Dieu va faire ce qu'il aime faire et il va répondre. Répondre de manière incroyablement positive. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour l'éducation des enfants. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour une femme qui a un mari rouspéteur de répondre de manière incroyablement positive à des murmures ou des rouspétances. Mais Dieu le fait. À Mara, Moïse implora l'Éternel qui lui indiqua un bois d'une certaine espèce qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint potable. Elle était amère, elle devient potable. Et puis, le deuxième, c'est Réphidim. Alors l'Éternel dit à Moïse, regarde, je fais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain, le peuple sortira et en ramassera chaque jour la ration nécessaire, c'est ce qu'on disait sur la manne, je le mettrai à l'épreuve de la sorte. La manne et l'écaille, il y a des cailles aussi qui arrivent, on les voit là, elles volent, il y a l'écaille, un petit peu de viande quand même. Pardon pour les véganes et les... Mais ce qui est intéressant, c'est que la manne est à satiété, mais les cailles ne le sont pas. À Massa et Meriba, l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et emmène avec toi quelques responsables d'Israël, prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va, quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur un rocher du mont Horeb, tu frapperas le rocher, de l'eau en jaillira et le peuple pourra boire. Dieu répond, il donne de l'eau, de la manne et des cailles et de l'eau encore. Dieu répond, et il nous est dit aussi au verset 16, au chapitre 16, verset 11, que Dieu entend les murmures, les plaintes des Israélites. Comme il a entendu l'écrit dans Exode 2 des Israélites alors qu'ils étaient sous le servage des Égyptiens, sous l'esclavage des Égyptiens. Il entend leurs cris et il entend leurs cris de nouveau. Même si ces cris sont d'une autre teneur, plus de la rouspétance et des plaintes, mais il entend quand même, Dieu continue d'écouter les cris et les plaintes et d'y répondre parce qu'il prend soin de son peuple. Il parle même de guérison après l'amertume des eaux de Marah. Il leur dit même qu'ils verront sa gloire incroyable, ce Dieu révélé qui se révèle dans tout son amour, dans toute sa bonté, dans toute sa prise de soin. Alors, presque, est-ce un aveu de faiblesse de la part de Dieu qui fait fi des désobéissances ou des rouspétances? Non, plutôt une manifestation de son amour et de son pardon que l'on appelle, que j'aime appeler la combinaison des deux, amour, pardon, égale grâce. Un mot sur cette manne qui descend du ciel chaque matin, qui a un goût de coriandre ou de miel. La manne vient du mot hébreu manou. Manou. Qui est en fait une question aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est la question que se posent les Israélites quand ils découvrent cette substance blanche par terre, comme du givre. Manou. Mais qu'est-ce que c'est? Et Moïse répond, c'est le pain que vous donne l'Éternel. C'est la réponse de Dieu, signe de sa grâce. Je réponds à vos besoins, j'ai entendu vos plaintes, vos murmures, vos grognements, avec une invitation à lui faire confiance. Comme on l'a dit tout à l'heure, en ne récoltant la manne sans faire de, en récoltant la manne sans faire de réserve, sans faire de provision, faites confiance aujourd'hui à Dieu pour vos besoins d'aujourd'hui. La réponse gracieuse de Dieu, qu'est-ce que c'est? Et quelques années plus tard, Jésus va reparler de cet épisode, quelques centaines d'années plus tard, hein, cet épisode de la manne, et il va répondre à cette question. Et pardon pour la syntaxe. Qu'est-ce que c'est, manhu, qui va pouvoir répondre à mes besoins les plus profonds et les plus essentiels? Qu'est-ce que c'est qui va répondre à mes besoins les plus essentiels, les plus profonds? Et Jésus va répondre dans l'évangile de Jean au chapitre 6, au verset 35, « Je suis le pain de vie, le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Et il fait référence à Moïse, un peu plus tôt, en disant « Moïse, c'était sympa. La manne, c'était sympa. C'était cool, la manne. Mais moi, Amy, moi, je suis Yahvé, l'Éternel, le pain de vie qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » C'est autre chose que la manne. Et il est très intéressant de voir que des gens, là, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, vont encore murmurer le même mot que dans Exode 15, 16, 17. Le même mot grec dans la version grecque de l'Ancien Testament, de la Septante, mais qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, des murmures encore. Alors les gens se mirent à murmurer contre lui. Ils murmurent parce qu'il avait dit « C'est moi qui suis le pain descendu du ciel. » Mais il est fou, c'est qui ce type? Qu'est-ce que c'est que ce type, ce Jésus? Et devant cet auditoire grincheux, Jésus va leur dire « Cessez donc de murmurer. Cessez de murmurer. » Un petit peu loin dans le passage. « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Et il prend les deux. Parce que, et on le voit aussi dans le Nouveau Testament, je vais assez vite, mais c'est extraordinaire. C'est l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10 qui en parle. Jésus est à la fois la manne, le pain qui descend du ciel, mais il est aussi le rocher. Le rocher qui donne l'eau. Des fleuves d'eau vive déborderont, couleront de son sein, dit Jean un petit peu plus loin. De l'eau déversée sur nous en abondance, symbole du Saint-Esprit. Dieu vient avec nous. Et qui pourra murmurer encore après ça? Je vous donne le pain avec lequel vous n'aurez plus jamais faim. Je vous donne l'eau avec laquelle vous n'aurez plus jamais soif. Alors on peut toujours râler parce que nous sommes des insatisfaits de naissance, c'est sûr. Et nous recherchons la satisfaction de nos désirs, même de nos noirs désirs, mais voilà, ça fait partie de notre nature humaine. Mais on pourrait se poser la question, où cherchons-nous notre satisfaction? Est-ce que nous trouvons satisfaction? Et je vous fais une petite liste lue au hasard de mes lectures, dans des commentaires, que j'ai trouvées pertinentes, en tout cas pour moi. Je vous laisse seul juge, mais... Nous recherchons la satisfaction dans nos carrières professionnelles. Mais au mieux, elle se termine par la retraite. Nous recherchons la satisfaction dans le regard admiratif des autres, mais notre apparence décline, ou notre influence s'érode, ou une personne plus digne d'admiration nous éclipse. Nous recherchons la satisfaction dans nos relations personnelles, mais des amis peuvent nous trahir ou trahir notre confiance, ou simplement s'éloigner, ou simplement décédé. Et même si ces choses peuvent durer un temps, la mort vient remettre tout à plat. Mais, dit ce commentaire, la mort ne nous volera jamais Jésus. Ce sera même plutôt l'inverse, c'est Jésus qui a volé la mort par sa résurrection, par sa puissance de résurrection. Et même, on peut dire en même temps qu'il a roulé la pierre de son tombeau, il a roulé la mort. Jésus, c'est la réponse de Dieu à tous nos murmures, à toute notre insatisfaction. Nous avions un verset sur notre carte de mariage, invitation au mariage. C'est celui qu'a cité Daddy tout à l'heure, car Jérémie 29, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de bonheur et de paix. Ouais, on va dire des bénédictions, c'était chouette. Mais depuis quelque temps, et je pense pas qu'Yvonne me contredira, parce que c'est toi qui m'en as parlé il y a quelques semaines, ce serait plutôt ce verset. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Une parole pour tous les murmurants, pour le premier ruspétaire que je suis. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et on aurait pu citer 2 Corinthiens 12, ma grâce te suffit, tout est suffisant en Christ. Dans notre positionnement en lui, nous avons tout en lui, le socle de son amour, l'assurance de sa fidélité éternelle, son pardon toujours renouvelé, sa grâce toute suffisante. Et c'est tout à fait révolutionnaire de pouvoir se dire, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Si je lui appartiens, si je me suis positionné en lui, j'ai tout pleinement en lui. Alors, ça vient tard, mais je voudrais quand même rajouter cela à la fin de cette prédication sur les murmures. Il y a un espace aussi dans notre vie chrétienne pour le questionnement de Dieu. Il y a dans les psaumes cette phrase qui revient souvent, jusqu'à quand? C'est un peu de la revendication quand même. Jusqu'à quand, Seigneur? Surtout par rapport à la souffrance, peut-être pas par rapport au concombre, mais par rapport à la souffrance, on est en droit de questionner Dieu. On a même le droit de se plaindre. Il y a un espace pour cela. On a, je sais pas si on peut se plaindre pour le montant de sa retraite ou pour son salaire. On a peut-être, on a le droit, mais on a aussi le devoir de se plaindre sur la justice ou le manque de justice dans le monde. Ça, c'est un devoir. De contester sur la justice sociale, la justice climatique. Mais il ne faudrait pas, quand on parle des murmures permanents, que cette murmure, que cette insatisfaction nous submerge et fasse de nous des grincheux et des grognons constants. Alors, comme d'habitude, dans cette série, sur l'Exode, je vous laisse avec quelques pistes d'application, des pistes de ski, hein, des noires, des rouges, des bleus, des vertes. Hein, vous laisse choisir votre piste. D'abord, la première piste, c'est passe par la repentance. C'est un mot difficile, c'est une piste noire, ça, hein, passer par la repentance. Ouf, la pente est raide, il y a des bosses, mais qu'il nous faut maintenir la repentance, qui veut dire littéralement ce changement profond d'attitude devant Dieu, un renoncement intentionnel au péché. Et Hébreux 6 nous parle, la repentance des œuvres mortes, la repentance des œuvres toxiques, la contagion, l'endurcissement, la repentance des œuvres qui nous mènent à la mort, qui nous tue par compassion, contagion et par endurcissement. Savoir se mettre à genoux, j'en parle pas souvent, ça, mais c'est la vie chrétienne. Non, Seigneur, j'arrête. N'oublie pas ton devoir de mémoire, avec un petit jeu de mots. N'oublie pas ton devoir de mémoire. On a parlé de cette mémoire sélective. Mais il y a dans la Bible un appel à faire mémoire, et en particulier dans le psaume 105. Souvenez-vous des choses qu'il a faites. On l'a chanté tout à l'heure, c'était toi. Dans le chant, c'était toi. J'ai pris note là. Ah, là, c'était toi. Ah oui, se souvenir du doigt de Dieu dans sa vie. On a tendance à l'oublier, évidemment, pour murmurer dans le présent. Faire mémoire, je lisais, le but est de rendre présent le passé et d'aider le croyant à investir son aujourd'hui et à se tourner vers l'avenir. Faire mémoire, c'était toi. Et je pense que l'Église est un bon lieu pour faire mémoire. L'Église dans le sens de communauté. On fait mémoire des merveilles de Dieu dans ta vie, dans ma vie, ou des accomplissements, ou de l'action de Dieu dans ma vie, des délivrances, des guérisons intérieures. Béni soit le nom du Seigneur, faire mémoire. Entrer, troisième piste, une piste verte, entrer dans la reconnaissance, on en a souvent parlé, mais il y a cet appel aussi incessant à la reconnaissance qui vient imprégner toute notre vie de prière d'abord, donc Philippiens 4, 6, prie avec reconnaissance, et la reconnaissance dans la vie de prière, ça change tout. La prière n'est plus une liste de demandes, requêtes, c'est aussi « Seigneur, je te loue pour ce que tu es pour moi. » Et ça transforme cette liste de demandes qui est là, mais ça la transforme de même que la reconnaissance qui imprègne toute notre vie change notre vie. Je ne suis plus un grognon. Avant tout, je suis d'abord un être reconnaissant. Et puis, dernière piste, une piste rouge, apprends le contentement. Et Paul en parle dans son épître aux Philippiens, « J'ai appris à être content, satisfait, partout et en toutes circonstances. » Et il parle, « J'ai appris à être content de la disette, dans la misère. » Bon, il est en prison, hein, je ne sais pas. « Mais aussi dans l'abondance. » Ça, c'est intéressant, le contentement dans l'abondance. N'en veut peut-être pas plus. Mais ce qui est intéressant, c'est « apprends ». Le contentement, c'est pas inné, c'est pas dans mes gènes. J'apprends le contentement et je me place en situation d'apprentissage. Oui, Seigneur, apprends-nous le contentement en toutes circonstances, dans l'abondance aussi. Allez, choisissez la piste noire, rouge, verte ou bleue. Vous y allez tout chousse ou en chasse-neige, peu importe, par la grâce de Dieu et pour sa gloire. Amen.